L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Samedi 21 mars, c'est la journée mondiale contre les discriminations raciales. À cette occasion, je reçois dans C'est d'actu la Ligue des droits de l'homme pour faire un point sur le climat actuel et en ce qui concerne le racisme à la veille du second tour des élections municipales. Quels enjeux dans la lutte contre la discrimination raciale aujourd'hui? On en parle avec Bernard Lebrun, militant de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, pour bien préciser de quoi on parle, qu'est-ce que ça regroupe en fait, les discriminations raciales? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, les discriminations raciales, pour en avoir la définition la plus exhaustive, on peut aller sur le site du Défenseur des droits, ou de la Défenseur des droits aujourd'hui, voilà, qui a sorti un rapport au mois de février, hein, pointant que on n'y a jamais eu autant de discriminations fondées sur l'origine, hein, particulièrement pour les jeunes. Et ces discriminations, ça se manifeste sur l'ensemble des étapes de la vie, de l'école, de l'enseignement supérieur, le logement, le travail, l'accès à la santé, aux loisirs et les rapports avec la police. Et la jeunesse est particulièrement concernée par ces discriminations.
Alors si elles sont omniprésentes à ce point, est-ce que ça veut dire qu'on doit considérer encore aujourd'hui que les discriminations raciales sont systémiques en France ?
Certainement. Il y a une contradiction entre les enquêtes d'opinion publique qui montrent qu'il y a un recul du phénomène du racisme dans l'opinion publique en général, mais le maintien de présupposés idéologiques, raciaux, à travers les institutions. Je prends la dernière, par exemple, qui a pu être faite par SOS Racisme, un testing sur l'accès au logement auprès des agences immobilières, qui donne un résultat extrêmement impressionnant, puisque 50% des agences immobilières disent qu'elles pratiquent la discrimination sur l'accès au logement en fonction des critères de race. Et 1 sur 2, une agence immobilière sur 2 le manifeste, quoi. 25% des enquêtes du Défenseur des droits montre que des personnes d'origine étrangère manifestées par la couleur de la peau essentiellement, 25% ont subi des discriminations en 2024-2025. Donc c'est des chiffres quand même extrêmement importants sont en augmentation.
D'ailleurs, quand vous parlez de critères de race, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la couleur de peau essentiellement?
C'est la couleur de peau, supposée. Alors c'est les critères, on peut supposer dans l'étranger en fonction de sa couleur de peau, on peut le supposer le musulman, c'est-à-dire qu'on le suppose parce qu'on ne supprime pas du tout la religion. Des Français depuis moult générations, mais qui sont de couleur noire, on va les supposer étrangers, et ils vont subir une discrimination sur l'accès au logement, c'est clair, sur le travail. Hein. Il y a des enquêtes, il y a un rapport qui a été fait au mois de novembre, justement sur les inégalités salariales, et toutes les personnes supposées étrangères ou supposées d'origine étrangère subissent des discriminations salariales, c'est-à-dire qu'elles sont moins payées que les autres. C'est des enquêtes réelles, c'est-à-dire qui ont été établies, donc se manifestent de manière systémique en France, effectivement, un problème de racisme.
Pourtant, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT avait élaboré un plan national de lutte contre les discriminations liées à l'origine. Un plan qui s'étendait de 2023 à 2026. Il visait à affirmer la réalité du racisme, le mesurer, mieux éduquer et former contre le racisme, sanctionner les auteurs et accompagner les victimes. Nous voilà donc en 2026. Quel bilan est-ce que la LDH dresserait des objectifs établis par ce plan?
Un bilan très faible. Il suffit de prendre le rapport du Défenseur des droits qui est sorti au mois de février, qui tire un bilan sur absolument tout, qui montre qu'il y a des persistances très claires. Mais j'oserais dire qu'on ne doit pas être tellement surpris de ce caractère systémique des discriminations et du racisme lorsqu'on écoute le débat politique, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'y compris dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, il y a eu des réflexions, des mentions qui sont extrêmement graves. Quand quelqu'un, un député, se permet de dire à un autre qui est noir, retourne dans ton pays, retourne en Afrique et tout, je veux dire, l'exemple ne vient pas du plus haut niveau de la nation, j'oserais dire. Et aujourd'hui, on assiste sur le terrain politique, je le dis bien, sur le terrain politique, à travers certaines organisations, sur le terrain médiatique, à travers certains médias, que je vais quand même pouvoir désigner, le système Bolloré, un système totalement décomplexé, une parole libérée sur le racisme. Hein, on se permet beaucoup de choses. Voilà, il y a des requêtes qui ont été faites auprès de l'ARCOM sur les propos qui sont tenus, sur le système Bolloré. Oui, il y a des propos à caractère xénophobe, raciste, et vous avez des organisations politiques, on peut en parler, puisqu'on arrive au deuxième tour des municipales, hein, d'accord, qui, dans leurs critères, ont, dans leur programme politique, le principe de la préférence nationale, qui est quand même un principe anticonstitutionnel, d'atteinte aux droits fondamentaux, mais c'est quand même des organisations qui ont pignon sur rue.
Voilà. Toujours pour préciser bien de quoi on parle, est-ce que les discriminations religieuses, comme l'islamophobie et l'antisémitisme, sont aussi considérées comme des discriminations raciales? Je pose la question parce que, notamment dans les chiffres de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui date de 2024, dans ce rapport, l'antisémitisme est inclus dans les actes racistes, mais pas l'islamophobie. Est-ce que ça signifie qu'il y a une différence d'interprétation, que les actes anti-musulmans sont considérés comme des actes anti-religieux sans être des actes racistes?
Je laisse aux organismes nationaux la manière de le classer. De notre point de vue, les actes islamophobes comme les actes antisémites relèvent de la même catégorie. Hein, les actes islamophobes, ce qui est vrai, c'est qu'ils se manifestent avec un présupposé religieux en fonction de l'apparence physique. C'est quand même ça qui joue. Hein. L'antisémitisme, c'est des choses, c'est une vieille notion en France. Hein. L'antisémitisme ne relève pas des années 2000 en France. Hein. Ce qu'on constate, c'est le maintien en permanence dans la société française de présupposés, de préjugés antisémites. Hein, voilà. Sans forcément que les gens s'en rendent compte, d'ailleurs. Hein. Il y a une vieille histoire de l'antisémitisme. Mais régulièrement, ça revient. Hein. Donc voilà. Donc effectivement, pour la Ligue des droits de l'homme, quel que soit le caractère religieux, hier, on n'accepte pas les discriminations sur ce terrain-là. L'antisémitisme, l'antislamophobie, c'est... voilà.
Et quand on regarde les chiffres, il y a quand même quelque chose d'étonnant, et vous l'avez rappelé, vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est qu'il y a une augmentation des crimes et des liens racistes, et par contre, une progression aussi de la tolérance. Donc, comment est-ce qu'on explique cette apparente contradiction entre, d'un côté, une augmentation de la tolérance, et de l'autre, une augmentation des actes violents?
Alors d'abord, l'augmentation de la tolérance montre que des campagnes qui ont lieu d'opinion, les campagnes militantes, hein, associatives, y compris d'État, marquent des points dans la société qui est de plus en plus métissée, j'oserais dire, qui est plus habituée au mélange. Donc là, il y a un recul des présupposés racistes, c'est vrai. Mais d'un point de vue institutionnel, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la libération de la parole raciste et le fait que des organisations politiques ou médiatiques portent des discours de haine. De fait, ça ouvre la porte à tout ce qu'on appelle les loups solitaires, les bandes racistes, hein, parce que ça existe, la ratonnade est quelque chose qui existe, voilà, suivant les villes. Et donc, ça libère, de fait, les pulsions, hein, la haine portée libère ces pulsions absolument négatives d'agression de l'étranger et de l'autre. Donc, on peut avoir une plus grande tolérance de la part des citoyens en général, et en même temps, une libération de la parole raciste qui conduit à des actes racistes et à des délits racistes. Voilà, on peut avoir les deux en même temps.
Et alors, pour en rappeler un en particulier, en 2024, Jamel Benjabala est assassiné, écrasé sous la voiture de l'ex de sa compagne, un proche de groupe d'extrême droite. La famille de la victime milite aujourd'hui pour que la justice reconnaisse la circonstance aggravante de crime raciste. Cette distinction entre crime et crime raciste, elle est importante, justement, dans la lutte contre le racisme?
Elle est très très importante, parce qu'il y a beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à faire reconnaître le caractère raciste d'un crime. D'accord. Je prends l'exemple un des plus connus, hein, qui a été l'agression, j'ai oublié son nom, mais à Paris, d'un cinéaste qui rentrait chez lui au moment, je crois que c'était encore sous le Covid et tout, et qui a été agressé dans son couloir. C'est parce qu'il y a eu des vidéos, mais affirmer la condamnation des policiers sur cette affaire, affirmer le caractère raciste, a été extrêmement compliqué de faire reconnaître cet acte. Quoi. C'est-à-dire que c'est très compliqué auprès des institutions policières et judiciaires de faire reconnaître le caractère raciste d'un délit.
Et on rappelle d'ailleurs que l'extrême droite reste une des principales menaces terroristes en France. Depuis 1986, elle a tué au moins 58 personnes, dont nombre d'entre eux ont été commis en raison de la race, de l'ethnie ou de l'origine de la victime. L'extrême droite, ça reste donc la principale menace concernant les actes racistes violents?
Ah, naturellement. Hein, le dernier rapport montre 10 000, le rapport sur 2024, je n'ai pas celui de 2025, 10 000 délits ou crimes racistes en 2024, dont 5 homicides et tous à caractère raciste. Voilà. Dans les 10 000, il y a tous les actes antisémites et islamophobes et tout, mais 5 crimes, hein, 5 homicides à caractère raciste. Voilà.
Et on en arrive donc à l'affaire Quentin Doran, que ce militant d'extrême droite tué à Lyon lors d'une rixe avec des militants d'extrême gauche. Cet événement a entraîné des représailles de la part de militants d'extrême droite contre des membres de la France insoumise notamment. Est-ce que cette actualité a aussi engendré davantage de tensions, voire de violences à l'égard des personnes racisées, Bernard Lebrun? Que constate la LDH sur le terrain?
Là, je ne vais pas vous répondre sur le constat depuis les événements de Lyon, hein, parce que je n'ai pas noté sur notre ville particulièrement des agressions de ce type récentes. Voilà. Hein, Ce qu'on peut constater dans cette affaire-là, c'est qu'il y a une grande majorité des violences issues des groupements d'extrême droite, ça c'est très clair, qui vont jusqu'au meurtre. Il y a eu, face à ça, et c'est une histoire quand même, hein, du mouvement associatif et du mouvement syndical, des phénomènes d'autodéfense dans l'histoire, hein, sur le siècle dernier. Ce qui s'est passé à Lyon relevait certainement au début de l'autodéfense. L'arrivée, personne ne peut cautionner la mort d'un militant, fut-il d'extrême droite.
Hein, voilà. C'était apparemment une rixe entre deux bandes rivales, un groupe de militants d'extrême gauche, un groupe de militants d'extrême droite.
Il faudrait discuter longtemps sur le processus qui a eu lieu, mais la conclusion est absolument... personne ne peut défendre la conclusion, hein, de cette affaire-là, bien entendu. Et ça porte atteinte globalement à tout le mouvement antifasciste, j'oserais dire, hein, de solidarité. C'est un peu ça le prix à payer. Mais il faut rappeler le contexte quand même, qui est le contexte de Lyon, qui n'est pas le contexte du Mans. Hein, voilà. Je veux dire, Lyon est une île, c'est une ville, c'est le phare pour l'extrême droite. Il y a un nombre de groupes d'extrême droite extrêmement violent à Lyon, le mouvement syndical, le mouvement associatif qui tient des réunions publiques a obligatoirement un service d'ordre parce que systématiquement l'extrême droite attaque les réunions publiques de solidarité et ainsi de suite. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est très connu sur Lyon. Le contexte n'excuse pas l'acte qui a eu lieu, mais je veux dire, il faut toujours essayer de comprendre d'où ça vient. Et voilà. Et je rappellerai sur l'extrême droite, parce que quand même, on ne peut pas s'arrêter à cette affaire-là, lorsqu'on prend le bilan des élections municipales, c'est-à-dire qu'on prend toutes les listes qui sont présentées au premier tour, d'accord. Ça a été fait par Street Press, par d'autres organisations. Sur les listes du Rassemblement National, parce qu'il faut porter un nom sur cette affaire-là, vous avez entre 150 et 200 personnes qui ont été repérées pour condamnation pour publication d'actes racistes, enfin de publications racistes, antisémites et tout sur les réseaux sociaux. Donc s'il y a une organisation en France qui, dans son histoire, parce que c'est aussi son histoire, mais aussi dans son présent, à travers son corpus militant, porte, bien entendu, les stigmates du racisme, de l'antisémitisme et de la violence, c'est quand même bien le Rassemblement National.
Alors, je me permets de préciser davantage sur les élus, les candidats sur les listes du RN. Il y a eu même des élus qui ont été condamnés pour des actes encore plus graves, comme terrorisme, voire homicide. Qu'est-ce que la Ligue des droits de l'homme organise à l'occasion de la Journée mondiale contre les discriminations raciales le 21 mars ?
Alors, on a un appel à un rassemblement à 15h samedi 21 mars devant la préfecture, suivi d'un défilé. Voilà, donc cet appel, il est unitaire. Hein. Il y a le mouvement syndical, le mouvement associatif, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD, le réseau d'éducation sans frontières dont je fais partie aussi, la CGT, la FSU, Solidaire, voilà, et d'autres associations qui se joignent. Voilà.
Un rassemblement qui a lieu la veille du second tour des élections municipales. Qu'est-ce que la LDH appelle à mettre en place à l'échelle du Mans contre les discriminations raciales ?
Alors, mettre en place, la LDH participe à des institutions officielles, hein, mais elle intervient aussi au sein des établissements scolaires, hein, bien entendu, sur ce terrain-là, à l'initiative des enseignants. Donc, régulièrement, des militants de la Ligue des droits de l'homme vont participer à des séances, des discussions sur l'immigration, le racisme, les discriminations diverses. Voilà, donc ça, c'est des programmes qu'elle fait au sein des établissements scolaires et son travail au quotidien. Hein, son travail au quotidien. La LDH est impliquée, comme d'autres, dans la solidarité, par exemple, avec les migrants. Hein, on pourrait en parler, mais il faudrait une émission entière pour parler du problème des migrants. Moi-même, j'anime une permanence régulière, juridique, hein, pour aider les personnes à défendre leur situation et demander des papiers ou recevoir des gens qui ont subi des discriminations.
Mais vous ne travaillez pas forcément avec les élus de la municipalité dans le cadre de vos actions ? En tout cas, au contact des élus ?
Pas directement, il y a des contacts, mais pas directement dans le quotidien.
Alors simplement pour terminer sur un autre sujet, Bernard Lebrun, la LDH manifestait ce mercredi 18 mars devant le tribunal du Mans à cause d'un match de basket. Alors expliquez-nous.
Alors l'équipe de basket, le match de basket de ce soir, il faut situer, s'il y a une équipe israélienne, je ne sais plus son nom, là, de Tel Aviv, voilà. Et ce qui a été rappelé à cette occasion-là, c'est que pour la LDH, d'un point de vue des États, devrait être pris en place la même mesure qui a été prise pour l'Ukraine sur le rejet des équipes russes, qui est un pays qui a agressé l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a une caractérisation de la politique israélienne du point de vue des instances internationales, de l'ONU, de reconnaissance du caractère génocidaire de l'intervention d'Israël à Gaza et ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Et donc, on pense que le sport est un facteur de, j'oserais dire, là, de blanchiment d'une politique qui n'est pas acceptable du point de vue de la défense des droits humains. Et que tant que cette politique continue, il nous semble que l'État français, enfin la République, et comme l'Europe d'ailleurs, devrait suspendre et rompre toutes ses relations avec l'État d'Israël, le temps que cette guerre continue, en demandant très fermement que ça s'arrête, quoi. Parce que la vie des populations palestiniennes, on dit Gaza, mais on va voir la Cisjordanie aujourd'hui, c'est absolument terrible, hein. Des gens sont chassés, même des Israéliens font des rapports en disant ce qui se passe en Cisjordanie est horrible, c'est que, même si on en parle peu, ce qui se passe au Liban est terrible, et que pendant ce temps-là, oui, il faut suspendre les relations, tout type de relations, qu'elles soient universitaires, parce qu'on le fait aussi avec l'université, et, ou sportives, mais tout le caractère, mais alors, il faut boycotter toutes les relations avec l'État d'Israël tant que continue cette politique.
Il faut préciser quand même que sur la qualification de génocide, c'est employé hein, par la Commission spéciale des États-Unis, mais en l'occurrence, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, seule autorité compétente pour statuer sur la question, n'ont pour le moment rien confirmé dans ce sens. La question est toujours en débat. Je vous remercie Bernard Lebrun, militant, à la Ligue des droits de l'homme au Mans. Merci beaucoup.
Merci.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.